À tout le monde. Chers témoins, la semaine dernière, nous avons eu l'occasion d'aller à l'église baptiste de Marseille et ils m'ont demandé de vous partager leurs salutations chaleureuses. Donc, c'est fait. Voilà. L'été dernier, Chers témoins, nous sommes arrivés à Nîmes. Je n'ai jamais ressenti une chaleur aussi forte de ma vie. 42 degrés. Vous savez, la chaleur est problématique pour les Écossais. Sur notre site touristique Visite Écosse, vous pouvez lire « Juin, juillet et août sont généralement les mois les plus chauds en Écosse, avec des températures maximales moyennes situées entre 15 et 17 degrés. Je n'avais jamais eu besoin dans ma vie de me réfugier dans la maison à 14 heures, sauf s'il y avait des grandes averses, mais jamais à cause de la chaleur. Peut-être pour vous, 42 degrés n'est pas si impressionnant que ça. Si, quand même. Peut-être vous avez déjà été dans des pays plus chauds. Ce matin, Alissa a parlé de la tempête. Et ce matin, je nous invite à faire un périple ensemble. Un périple non pas dans une tempête, mais dans un désert. Un désert où il fait très chaud. Mais bien sûr, il n'y a pas d'eau. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout organisé. Donc sur ce périple, nous allons marcher de oasis à oasis. Les débuts de la journée, nous allons prendre nos gourdes, nous allons arriver à l'oasis et nous allons les remplir ensemble. Et à la fin de la journée, bien sûr, vous inquiétez pas, on va arriver à la prochaine oasis et vous allez pouvoir les remplir à nouveau afin d'étancher notre soif. Alors imaginons, on a fait quelques jours de marche. On a chaud, on est couvert de sable et de la poussière, et on a soif. Et en plus, l'oasis qu'on devait retrouver cette nuit est complètement desséchée. Comment réagirez-vous? Est-ce que vous seriez en confiance? C'est bon, il a tout prévu, il a une solution. Ou est-ce que vous seriez en colère? Je savais qu'il ne fallait pas écouter cet Écossais. Parce que les Écossais ils gagnent au rugby. Ça y est, c'est bon. Il fallait l'envoyer. Je ne l'ai pas prévu, mais je cherchais un moment. Pourquoi on est parti en périple avec lui? On a tellement soif, on aurait dû juste rester à la maison, là où on était. Bon, bien sûr, ce périple est imaginaire. Mais je pense que nous avons vécu, ça nous aide, ce périple, à nous mettre à la place des Israélites qui, eux aussi, ont traversé le désert. Et donc, je vous invite à lire ensemble Exode 17, versets 1 à 7. Ce texte me parle depuis le mois de novembre et je trouve que, d'abord, je suis vraiment heureux de pouvoir prêcher sur ce texte. Mais en plus, je trouve que ça va vraiment dans le sens de ce qu'Alissa a partagé ce matin. Des paroles d'encouragement aussi, alors que ça n'a pas été préparé entre nous. Et je vous préviens que la prochaine fois que je prêche, je vais prêcher sur la deuxième partie de ce texte. Donc, vous pouvez le lire et être prêt. Exode 17, versets 1 à 7. Je lis dans la version Bible de Sommer. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert du Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Rephidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors, le peuple prit Moïse à partie en lui disant « Donne-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi vous me prenez à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main à l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit, « Pourquoi nous a-t-on fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle. Parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main à l'Éternel, en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Où est Dieu au milieu de nos déserts? Où est Dieu au milieu de nos déserts? Aujourd'hui, je nous invite à regarder nos réactions quand nous nous retrouvons dans le désert et l'action de Dieu au milieu de nos déserts. Nos réactions et l'action de Dieu. D'abord, la réaction des Israélites est clairement une plainte. Une plainte et une plainte d'accusation. Jusqu'ici, quand il y avait des sources d'eau imbuvables, Dieu les a rendues potables. Et quand il manquait de la nourriture, Dieu avait prévu de la manne pour qu'ils puissent manger à leur faim. Alors le peuple prit Moïse à partie en disant, « Donne-nous de l'eau à boire !» Certes, dans le chapitre précédent, Dieu a pourvu ces éléments pour son peuple. Mais il n'a jamais été question de remercier Dieu pour la manne. Le peuple accuse Moïse parce que pour eux, de l'eau et de la nourriture sont un dû. Si nous nous mettons à la place des Israélites, ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'esclavage pour être libres. Mais avant de retrouver le pays promis, ils ont dû abandonner la vie d'habitants pour devenir des nomades. C'est pas grave, ça me permet de prendre une gorgée. Les Israélites ont quitté la vie d'habitants pour devenir des nomades. On comprend alors qu'ils puissent ressentir un certain droit à la nourriture, un certain droit à l'eau. S'ils n'ont pas de maison, ils estiment au moins avoir le droit aux choses essentielles à la vie, non? Quand tout va bien, quand le loyer ou le crédit est payé à la fin du mois, quand il y a de la nourriture en abondance, quand il y a un toit au-dessus de notre tête, il n'y a pas de doute. Dieu est bien là. Il est pour nous. Il est avec nous. Il est au milieu de nous. Mais quand nous traversons des épreuves et quand nous enchaînons des souffrances, quelle est notre réaction première? Sommes-nous pas un peu comme ces Israélites? Je me demande comment nos frères et sœurs en Moyen-Orient, en Ukraine, en Russie, au Soudan, répondraient à cette question. Dieu est-il au milieu de vous? Oui ou non? Vous savez bien, le prix de l'essence et du gasoil a augmenté du coup cette dernière semaine. Et directement, ma première réflexion, première réaction, c'était « Oh non, mais c'est pas juste, c'est trop cher ». À ce moment-là, j'ai complètement oublié que d'autres souffrent. Leur maison détruite, leur accès à l'eau n'est plus possible. Donc qui suis-je pour me plaindre de devoir payer 20 centimes de plus pour faire rouler ma voiture ? Lorsque nous ne recevons pas ce que nous pensons être notre dû, il me semble que notre première action est souvent de nous plaindre et d'accuser Dieu de l'injustice. Moïse, il continue. Pourquoi vous me prenez à partie ? Pourquoi vous voulez forcer la main à l'Éternel ? La réponse de Moïse ne suffit pas pour cesser les plaintes du peuple. Pressé par leur soif, le peuple se plaignait de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos troupeaux et nos enfants ?» Cette fois-ci, leur réaction est conduite par leur peur de mourir et leur manque de confiance dans le plan de Dieu. Moïse, lui, il était un serviteur fidèle de Dieu. Il avait montré la puissance de Dieu par les 10 plaies contre l'Égypte. Et il était le vecteur par lequel Dieu a libéré son peuple en ouvrant la mer Rouge. Nous lisons quelques chapitres avant, en Exode 14, versets 30 à 31. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens, et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Et le peuple eut de la crainte envers l'Éternel. Ils eurent confiance en lui et en Moïse, son serviteur. L'histoire que nous lisons aujourd'hui est seulement 2 à 3 mois après la délivrance de l'Égypte. Donc leur crainte de Dieu et leur confiance en son serviteur Moïse ne durent vraiment pas très longtemps. Bien le contraire. Dès qu'un problème survient, le peuple se détourne de Dieu et lui pointe le doigt. Ils oublient la délivrance de Dieu des mains des Égyptiens et ils perdent toute leur confiance en lui. Au lieu de s'appuyer sur Dieu dans l'épreuve et attendre de voir sa main agir, ils ont décidé de lui attribuer cette épreuve. Leur peur de mourir de soif était plus grande que leur confiance en Dieu. Peut-être avons-nous déjà vécu des situations semblables où notre vie chrétienne a vacillé. Lorsque nous ne voyons pas Dieu dans la vallée de l'ombre, lorsque nous ne le sentons pas comme nous sommes au ras du sol, lorsqu'il n'est plus tangible parce que nous n'arrivons plus à nous lever. Quelle est notre réaction ? Est-ce que nous aussi, notre confiance en lui est bousculée ? Pour ma part, il y a 1 an et demi, je suis passé par une période difficile, d'épreuve, une période sombre. Et ma première réaction n'était pas de courir auprès de Dieu. Mais heureusement, j'avais des frères et des sœurs en Christ qui ont pu me porter, qui ont pu m'aider à me réfugier en lui et lui faire confiance. La dernière réaction du peuple se manifeste par une montée de colère pouvant mener à la violence. Moïse crie à l'Éternel et il dit « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. » Comme beaucoup des prophètes, Moïse faisait partie du peuple d'Israël, mais de la même manière comme beaucoup de prophètes, il s'est fait rejeter par son propre peuple. Ainsi, lorsqu'il crie Dieu, il dit « ce peuple » pour montrer son attachement à Dieu et le plan de Dieu et s'en éloignant son éloignement de l'égarement de Dieu et du peuple, pardon. Dans sa détresse, dans sa peur et dans sa mort imminente, il crie Dieu. Non pas pour répondre à la demande du peuple, mais pour que Dieu lui montre comment agir selon sa volonté et non pas la sienne. Moïse, il aurait pu essayer de forcer la main de Dieu, comme il l'a fait dans une histoire plus tard. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Nombre 20, où le peuple se retrouvait de nouveau sans l'eau à boire, et Dieu invite Moïse cette fois-ci à parler au rocher. Mais au lieu de parler, il frappe le rocher deux fois. Et c'est bien pour cette raison-là qu'il ne va pas pouvoir rentrer dans le pays promis. De la même manière que Moïse et que le peuple, il me semble que nous avons le choix de nous mettre en colère contre Dieu ou de crier vers lui en demeurant fidèles. Lorsque nous nous mettons en colère, nous pouvons crier Dieu. Face à l'injustice, nous pouvons crier Dieu. Dans la consommation de la pornographie, on peut crier Dieu. On peut crier Dieu et demander sa volonté et non pas la nôtre. Je mentionne la pornographie, mais il y a bien d'autres péchés difficiles, intérieurs et personnels. Nous pouvons crier Dieu et lui demander sa libération et sa délivrance. Un chrétien iranien appelé Mansour, qui travaille avec Porte Ouverte, a écrit ceci concernant la guerre en Iran. Il y a un profond désir de liberté dans le cœur de notre peuple. Si ce moment douloureux devient un tournant vers la justice et une véritable liberté, ma prière est qu'il ne conduise pas à une plus grande destruction, mais à une dignité restaurée, à l'espérance et à la paix. Comme cet homme, Mansour, que le Saint-Esprit nous pousse à crier vers Dieu, à lui rester fidèle et à compter sur sa parole, qui nous montre que Dieu est toujours présent. Il nous dirige, il est puissant et il pourvoit pour nous. Et c'est bien ça la deuxième partie de la prédication, l'action de Dieu au milieu de nos déserts. Dieu conduit et il dirige le peuple malgré leur incrédulité. Au verset 1, nous voyons que c'est selon les directives de l'Éternel que le peuple part du désert de Sin et arrive à Rephidim. De la même manière, nous lisons dans les versets 5 et 6, l'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et emmène-toi avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » C'est Dieu qui donne les ordres à Moïse. C'est lui qui dit ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut utiliser, dans quelle direction il faut aller, où il faut s'arrêter et où Dieu va être retrouvé. Malgré l'aveuglement du peuple, Dieu dirige tout, du moindre au plus grand détail. Ces versets montrent que c'est bien Dieu qui dirige le peuple et non pas son serviteur Moïse. La preuve, Dieu appelle Moïse à passer devant le peuple. Ou en d'autres mots, à précéder le peuple en Horeb, afin qu'il performe le miracle de l'eau qui jaillisse de rocher en privé. Et donc Dieu conduisait le peuple malgré l'absence physique de Moïse. De même, si Moïse précède le peuple, alors Dieu précède Moïse. Car il indique le rocher qu'il faut frapper par sa présence. C'est donc toujours Dieu qui mène la danse. On peut se poser la question, ok, alors si c'est Dieu qui dirige le peuple, alors pourquoi il les emmène à Rephidim, là où il n'y a pas d'eau? Mais je pense que si on commence à raisonner comme ça, on manque l'essentiel. Car Dieu a déjà dirigé son peuple depuis 3 mois. Les emmenant de lieu en lieu, de oasis en oasis. Ils n'ont jamais manqué de l'eau ni de la nourriture. Là où Dieu les a dirigés, il leur a toujours montré sa fidélité. Donc même si nous n'avons pas de colline de nuée ou de feu devant nous, comme le peuple d'Israël, même si Dieu nous semble invisible, il ne s'éloigne jamais de nous. Il ne nous laisse pas seuls dans notre désert ou dans notre tempête. Mais sa main sûre nous dirige et nous conduit. Il est notre bon berger qui nous conduit au bord des eaux calmes, qui nous conduit et qui est auprès de nous dans les déserts où règnent les ténèbres. Et c'est celui-là qui nous accueille dans sa maison tant que nous vivrons. Dans ces versets, il est aussi mention du bâton. Le bâton de Moïse. Ce bâton nous rappelle la puissance et la providence de Dieu. Il est le symbole de la puissance divine entre les mains du serviteur de Dieu. Cette même puissance qui va délivrer le peuple, pourvoir à tous ses besoins et étancher sa soif, c'est cette même puissance que montre et désigne ce bâton. Mais note que Dieu appelle ce bâton le bâton qui a frappé le Nil. Non pas le bâton qui a changé en serpent, ni le bâton qui a ouvert la mer Rouge. Non. Même si c'est toujours le même bâton, Dieu mentionne bien le bâton que Moïse a utilisé pour frapper le Nil, pour changer l'eau en sang. C'est le tout premier des fléaux que Dieu a envoyé en Égypte. Dieu répond à la plainte du peuple. Moïse, quand est-ce que tu vas nous laisser sortir de l'Égypte? Dieu répond à cette plainte en leur montrant que cela soit l'Égypte ou dans le désert, ils dépendent de la providence de Dieu. Dans l'histoire du premier fléau, les Égyptiens ont dû creuser des trous, dans la terre pour arriver à boire de l'eau potable. Appeler le bâton ainsi est donc une manière de faire souvenir aux Israélites que l'Égypte n'est pas si parfait qu'ils croient. Et c'est aussi une manière de leur montrer que leur envie de repartir en Égypte n'a strictement aucun sens. Car si auparavant ils dépendaient de la providence de Dieu en tant qu'esclaves, aujourd'hui ils dépendent de la providence de Dieu, mais en tant qu'hommes libres. Hommes et femmes libres. De même, par cette petite appellation du bâton, Dieu leur rappelle pourquoi il les a libérés de l'Égypte. Non pas pour les faire mourir au désert comme eux ils croient, mais pour les offrir la vie en abondance dans un pays promis. Même si le chemin vers ce pays n'était pas toujours sans difficulté, Dieu n'a jamais cessé de pourvoir à leurs besoins. La manière dont Dieu nomme ce bâton est vraiment un rappel du passé. un souvenir de ce qu'ils ont déjà traversé ensemble. Et presque une petite gentille claque qui dit, et les gars, vous vous souvenez que c'était moi qui vous a libéré de l'Égypte? Vous vous souvenez que c'est moi qui change l'eau en sang et qui peut changer le vin en l'eau aussi? Ou plutôt l'eau en vin. Ne vous inquiétez pas. Et je pense que Dieu nous fait grâce. Il nous fait grâce de nous parler ainsi aussi parfois. Parfois en lisant sa parole ou en recevant une parole d'encouragement d'un frère ou d'une sœur, Dieu nous rappelle ce que nous avons traversé avec lui, ensemble, et comment il est toujours en train de pouvoir pour nous. À environ une journée de marche de Réphidim, il y avait le mont Horeb. Autrement dit, la montagne de Dieu. Donc, il faisait sûrement partie de ce même massif des montagnes où il y a Sinaï. Il fallait probablement graver le mont Horeb pour arriver au mont Sinaï. Mais on n'est pas 100% sûr. Mais toujours est-il que Horeb signifie désert et désolation. Et je lisais un commentaire, et il appelait ce lieu Horeb la région brûlée. Je pense que nous avons compris. Il faisait chaud. Donc le miracle de l'eau qui jaillit d'un rocher est encore plus frappant. Moïse devait frapper le rocher pour montrer l'intervention de Dieu qui a fait apparaître l'eau de nulle part. Autre que les mots « Moïse fit ainsi » dans le verset 6, autre que ces mots-ci, il n'y a pas mention de l'eau qui sort du rocher. Car en effet, le miracle en lui-même n'était pas la partie la plus importante du récit. C'est pour cela qu'il était privé en privé, juste avec quelques responsables d'Israël. En effet, dans ce récit, ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la signification du miracle. C'est Dieu qui donne l'eau à boire. C'est lui qui donne l'eau à boire d'un endroit si improbable. Celui est capable de pouvoir pour le peuple d'Israël, et celui peut les aider à marcher dans le désert. C'est donc sur lui qu'il faut qu'ils appuient entièrement. Qu'avons-nous que Dieu ne nous a pas donné? C'est lui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Je ne bouge pas beaucoup pendant la prédication. Vous avez remarqué? J'arrive pas à bouger jusqu'ici, mes notes sont trop loin. Mais il nous donne la vie, le mouvement et l'être. Ce récit nous montre que Dieu ne nous a pas seulement, il ne nous a pas seulement donné dans le passé, mais il ne cesse de nous donner. Et nous ne cessons de dépendre de lui, mais de lui seul. En Corinthiens 10, verset 4. Je le lis. Paul, il évoque Moïse. Il évoque cette situation aussi. Il dit, ils ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. L'apôtre Paul dit que le rocher sur lequel la présence de Dieu se tenait et celui que Moïse a frappé était Jésus lui-même. Le don de Jésus-Christ est à la fois historique, c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, mais il est aussi bien spirituel. une réalité dont nous sommes invités à prendre conscience tous les jours. Si Dieu a pourvu que les Israélites puissent avoir de l'eau à boire ce jour dans le désert, il nous a également pourvus avec de l'eau qui jaillit de Jésus. Son Esprit Saint qui nous conduit dans tout ce que nous faisons lorsque nous choisissons de le suivre et qui nous console dans chaque situation de notre vie. Si nous voulons être une église où la vie de Jésus jaillisse en abondance, alors, comme Paul le dit dans ce même chapitre quelques versets plus tard, alors lorsque nous sommes debout, prenons garde à ne pas tomber. Ancrons-nous en Dieu et non pas en nous-mêmes. Dans cette période qui précède la Pâque, rappelons-nous que notre vie éternelle dépend de la grâce de Dieu. La grâce seulement de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. De même, faisons confiance dans la fidélité de Dieu, dans sa présence constante, sa direction fiable, sa puissance majestueuse et sa providence éternelle. Peut-être au lieu d'appeler cette prédication « Où est Dieu au milieu de mon désert ?» peut-être on pourrait l'appeler « Vers où courrais-je dans mon désert ?» En arrière, vers mon passé, le passé de l'esclavage et du péché, sans Dieu, mais tout seul dans mon autosuffisance, ou en avant, dirigé par le Dieu de la vie, celui qui fait jaillir de l'eau des rochers et celui qui pourvoit pour moi dans chacun des déserts que je traverse. À la lumière de ce texte, et en considérant la persécution, les guerres, les souffrances personnelles que vivent nos frères et sœurs chrétiens parmi nous et dans le monde, à la lumière de ce texte, il serait faux de croire qu'en tant que chrétiens, nous n'avons plus de désert à traverser. Nos déserts sont bien une réalité de la vie de ce monde qui n'est pas parfait et qui est en attente de renouvellement parfait lorsque Jésus reviendra. Mais dans nos déserts, lorsque nous avons du mal à voir Dieu agir dans le moment, il nous promet de nous diriger, de nous conduire, de pouvoir pour nous, de donner sa vie pour nous. Par son esprit, il ne nous laisse pas seuls, mais il nous console, il nous berce, il prend soin de nous. Dans cette vie, qui est un chemin qui passe au bord des lacs calmes, des rivières, des jolies plages, mais aussi des montagnes rocailleuses et des déserts desséchés. Je nous invite à choisir Dieu. Je trouve que cette petite citation de Blaise Pascal résume bien la différence entre nos réactions et l'action de Dieu dans nos déserts. Et c'est comme ça que je vais terminer. Si l'homme n'est pas fait pour Dieu, pourquoi n'est-il heureux en Dieu? Si l'homme est fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu? Si l'homme n'est pas fait pour Dieu, pourquoi n'est-il heureux en Dieu? Si l'homme est fait pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu? Je vous invite à la prière. Père éternel, nous avons parlé des tempêtes ce matin, nous avons parlé des déserts. Je ne veux pas oublier les plages jolies, des eaux calmes que nous pouvons passer, où nous pouvons passer parfois aussi. Mais Seigneur, je veux te prier que dans chaque moment de notre vie, que nos réactions premières soient la confiance en toi. Sois le souvenir de ta providence, de ta direction parfaite, de ta présence et de ta puissance qui peut dépasser toutes nos situations. Seigneur, merci que de nous aider par ton Saint-Esprit à faire confiance en toi, à te louer, à reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme seul qui peut nous aider à traverser de la mort à la vie, qui peut nous délivrer. Père, merci pour ce texte. Merci pour ta parole. Viens également nous aider à passer du temps avec toi. Apprends cette routine. Et viens consoler, bercer ceux qui souffrent, Seigneur. Que ce soit les chrétiens dans ce monde ou des peuples, des populations qui souffrent. On pense à Moyen-Orient, Seigneur. Mais il y a bien d'autres pays aussi. Il y a bien d'autres souffrances que nous ne voyons pas, qui ne sont pas mises sur les infos, Seigneur. Viens, viens consoler ton peuple. Viens leur montrer que c'est toi qui les dirige. Au nom de Jésus. Amen. Et la prochaine fois, nous allons continuer cette histoire. Et j'ai hâte